ce vaste mouvement que le marché de la poésie et de nombreux partenaires a lancé il y a déjà quelques semaines, qui fut inauguré à Lyon à la mi-mai et qui continue à travers le pays et à travers ces tables rondes. Cette première table ronde porte comme titre, vous l'avez vu dans le marché des lettres, dans notre journal, « La poésie et le théorique ». C'est l'une des thématiques que nous avons construite avec le collectif qui a préparé l'ensemble de ces tables rondes. Et nous avons souhaité commencer par cette table ronde qui peut vous sembler quelque peu exigeante de par son titre, « La poésie et le théorique », de manière à peut-être interroger des questions, enfin poser des questions qui sont peu souvent posées, en tout cas dans le cadre de débats très ouverts en face d'un public. Ces questions sont souvent discutées dans le cadre universitaire ou au sein même des collectifs qui s'intéressent à l'écriture et au poème, mais elles sont rarement débattues publiquement et nous avons souhaité donc marquer le coup en quelque sorte pour montrer que ces états généraux, vous voyez le lapsus, sont ouverts et cette ouverture se fait à tous les niveaux et pas seulement au niveau de la lecture ou de la démonstration, mais aussi au niveau de la réflexion. Alors, à côté de moi, je vous présente Bénédicte Gorillot. Elle est maître de conférence en poésie latine et littérature française contemporaine à l'Université de Valenciennes, coéditrice de la revue Formes poétiques contemporaines et membre du conseil éditorial de la revue des sciences humaines, ainsi que du conseil éditorial des Revista Alea Estudos Neolatinos de l'Université de Rio de Janeiro au Brésil. Elle est vice-présidente de la Société des lecteurs de Francis Ponge, ce qui ne manquera pas d'intéresser notre ami Jean-Marie Glaise, je crois. Anne Parian, à la droite de Bénédicte, née à Marseille, poète, vit et exerce la psychanalyse à Paris. Elle a publié récemment Monospace chez POL en 2007, Égal Jonché au Petit Matin en 2008, La Chambre du Milieu, vidéolecture chez POL encore en 2011. Martin Rueff, poète, essayiste, critique littéraire et traducteur. Il a enseigné à l'Université de Bologne et à l'Université Paris 7 Diderot et aujourd'hui il est professeur à l'Université de Genève. Co-rédacteur en chef de la revue Poésie, que vous connaissez tous, il dirige chez Verdier une collection de littérature italienne, Terra d'Altri. Il a écrit plusieurs livres de poésie. Le dernier, Icare crie dans un ciel de craie, publié chez Belin en 2008, a été traduit en plusieurs langues. Et je sais qu'il a quelques projets de publication poétique sous le pied, comme l'on dit. Jean-Marie Glaise, professeur émérite de littérature à l'École normale supérieure de Lyon. Il a été responsable du Centre d'études poétiques, un lieu qui a invité plusieurs, presque centaines de poètes contemporains, qui a marqué véritablement la recherche poétique à l'université, mais plus largement encore. Il a donc été responsable de ce Centre d'études de 1999 à 2009. Il a dirigé les collections Nioc aux éditions Aldante et Signe aux éditions de l'ENS. Et il a créé la revue Nioc, qu'il anime depuis 1990. Il a publié récemment le livre des cabanes au seuil, collection fiction, et en 2015, et cette même année 2015, littéralité aux éditions Questions théoriques. Voilà pour les présentations. Vous avez une idée un peu des qualités de nos intervenants. Et je vais tout de suite donner la parole à Martin Rueff. Vous avez regardé le marché des lettres et reconnu sa photographie. Aujourd'hui, il a mis sa fausse barbe pour être plus discret parmi nous. Et Martin nous a fait le grand plaisir de nous offrir un texte de réflexion pour nous donner un point de vue sur l'enjeu, l'importance des états généraux et de la question du poème aujourd'hui. Je lui ai demandé, pour commencer cette discussion, de revenir sur ce texte, qui est un texte exigeant, qui mérite plusieurs lectures, et quoi de mieux que d'avoir à côté de nous, en face de nous, l'auteur même de ces lignes pour en entendre un commentaire. À toi, Martin.
Merci. Donc, deux mots sur ce texte, en effet, puis deux mots pour ouvrir la discussion. On ne va pas simplement se contenter de s'entregloser. Oui, le texte que Yves Boudier m'avait demandé pour le marché de la poésie, on peut dire que c'est comme certains des textes que nous faisons parfois. Il a deux types de public. Hein, il a un public externe élargi, hein, qui est le public des lecteurs. Alors, il s'agissait de dire à ces lecteurs ce qu'on essaie de faire aujourd'hui quand on fait des poèmes, quand on croit à la poésie, le type de pratique que c'est, le type de théorie que ça implique, le type d'engagement aussi, et puis un usage, je dirais, interne de discussion, justement, entre nos points de vue. Du point de vue externe, je dirais que la question qui se pose et que tout le monde nous pose et avec laquelle, d'une certaine manière, à l'égard de laquelle, d'une certaine manière, on éprouve une certaine lassitude, c'est, disons, le statut culturel de la poésie. Ce que Roubaud disait une fois de manière comique, hein, aujourd'hui il y a plus de discours sur le fait que la poésie va mal que sur la poésie. Bon. Ce que Michel Deguy, ici présent, appelle parfois à faire rentrer la poésie dans le débat. Et donc on nous demande parfois de nous exprimer sur l'état culturel de la poésie. Alors l'état culturel de la poésie, je pense que c'est une question très vaste et qui n'est pas tout à fait l'objet de notre réunion aujourd'hui. Le marché de la poésie prouve qu'il y a évidemment des institutions culturelles qui défendent le poème. J'ai appris, je vous l'apprends si vous ne le savez pas, que chaque jour se vendent 1000 exemplaires de la poésie, de la petite édition Poésie Gallimard. Donc on ne peut pas dire que la poésie en général va mal. Mais en revanche, c'est vrai, ce qui va sans doute mal, c'est le rapport entre ce qui se fait dans la recherche poétique aujourd'hui et la visibilité de ces recherches dans le public. Voilà, ça je crois que c'est quelque chose qu'on peut dire sans trop polémiquer. Disons qu'il y a peut-être plus d'attention culturelle aux avancées de l'extrême contemporain pictural et musical qu'aux avancées de l'extrême contemporain poétique. On pourrait se demander pourquoi. Il n'est pas facile de toucher au langage, il n'est pas facile de toucher au rapport entre la subjectivation dans la langue et le poème. Ça a un effet pervers, cette situation a un effet pervers, c'est qu'on accorde l'adjectif poétique à toutes sortes de pratiques aujourd'hui, sauf au poème. Tout est poétique aujourd'hui, les vêtements, les films. Dès qu'on veut dire qu'un roman est bon, on dit qu'il est poétique. Et c'est comme si l'adjectif poétique avait délaissé, on en avait parlé ailleurs, son porteur naturel. Donc là-dessus, évidemment, il y a à débattre. On peut inscrire ce débat. Du point de vue maintenant interne, ce que j'essayais de dire dans ce petit texte, c'est un ensemble de considérations qui sont à la fois des constats et puis peut-être des propositions, disons, qui peuvent faire polémique. Hein. Et disons, je défendais un certain rapport du poème à la langue, au phrasé, de Guy Diré, au logos, à la profération. Et je disais, bon, d'une certaine manière, il ne faut pas négliger quel est le lit naturel du poème. Alors tout ça peut faire débat, on n'est pas tous d'accord avec ça, etc. Alors, comment ? Et alors, ce que je peux dire maintenant pour conclure ce premier volet de présentation, c'est que la question qui nous est posée, qui vous est posée aujourd'hui, c'est le rapport entre poétique et théorique. Alors, cette question, c'est une question qui ne doit pas vous effrayer, parce que d'une certaine manière, elle est, je le dis sans provocation aucune, la plus naturelle qui soit. Ça ne veut pas dire la plus explicitée qui soit, mais elle est le plus naturel qui soit. C'est un philosophe aujourd'hui un peu passé de mode, qui s'appelait Louis Althusser, qui disait, en fait, tous les scientifiques, tous les savants font de la philosophie. Parfois ils le savent, parfois ils ne le savent pas. Quand ils ne le savent pas, ça veut dire qu'ils en font de la mauvaise. Et quand ils le savent, ils se tournent vers des questions théoriques. Et je crois qu'on peut dire la même chose des poètes, c'est-à-dire que toute poétique, c'est-à-dire toute réflexion qui double l'inquiétude qui saisit un sujet quand il s'exprime dans sa langue, toute poétique va avec une théorie. Alors cette théorie, elle peut aller dans le sens de la négation de la théorie, bien sûr, elle peut aller dans le sens, au contraire, de la revendication de la théorie. Et là-dessus, je crois qu'il faut être vraiment très, très souple. Il y a plusieurs modalités de rapporter la pratique poétique à la théorie. Il y va dans ces questions, si vous voulez, de ce qu'on appelle la poétique. Alors, la poétique, ça peut vouloir dire, comme au lycée, la poétique d'un écrivain, c'est-à-dire l'ensemble des règles qui président à l'écriture des poèmes. Bon. Mais la poétique aujourd'hui, hein, par exemple, quand Jean-Marie Glaize publie dans Questions théoriques, hein, bon, ça veut dire quelle est la théorie, justement, que je peux déployer pour expliquer ce que je fais. Hein, la question est tout à fait celle du comment, mais aussi celle du pourquoi, dans quel but, à quelle fin, etc. Le rapport, en fait, je crois que ce qu'on peut dire, hein, toujours en citant Althusser ici, hein, c'est que la poésie, c'est une pratique théorique. Hein, c'est-à-dire, c'est une pratique qui a des effets théoriques, qui enveloppe des effets théoriques, et ces effets théoriques, ils ont aussi des effets pratiques. Voilà, pour planter le décor, je dirais.
Jean-Marie, je te voyais réagir pendant l'intervention de Martin.
Non, c'est juste parce qu'il avait repris l'image de Michel à propos de la poésie qui doit rentrer dans son lit en quelque sorte. Lequel lit est celui du logos, enfin, du langage, du phrasé, etc. Donc c'est ce dont je ne suis pas absolument certain pour ma part. Donc je pense qu'il y a d'autres lits possibles, hein, et que voilà, que la poésie a plusieurs lits, voilà. Bon. Voire elle peut carrément rester ailleurs que dans un lit, voilà. C'est-à-dire son lit naturel me semble, voilà. Bon, non, moi je suis forcément extrêmement, enfin, en difficulté là. Dans ce lieu où je ne viens quasiment jamais, voilà, marché de la poésie, de crainte sans doute de rencontrer 345 poètes, voilà. Donc, parce que j'ai certains d'entre vous le savent, j'ai une relation problématique à la poésie. Je veux dire, pour moi, la poésie ne va pas de soi. Je pense que même d'une certaine manière, la poésie, mais ça tu serais d'accord avec moi, enfin j'y dire chacun d'entre nous le sait, la poésie au singulier comme ça n'existe pas. Et d'une certaine manière, parler de théorie de la poésie, c'est-à-dire parler de théorie de quelque chose qui n'existe pas, est assez délicat. D'autre part, je sais que... la poésie en question, la pratique en question, elle a un rapport ancien et prolongé avec la philosophie, de Platon à Heidegger, voilà. Mais en même temps, philosophie et théorie, c'est peut-être pas exactement la même chose. Et il y a un troisième terme qui est venu d'ailleurs dans ton propos très vite, qui est la de poétique, c'est-à-dire il existe une poétique, il existe au fond deux poétiques, mais qui peuvent très bien se chevaucher. La poétique que j'appellerais, mettons, spéculative, théorique et spéculative, et puis une poétique descriptive, voire pourquoi pas prescriptive dans certains cas. Donc philosophie, théorie, poétique, ces mots à la fois ils ont des, enfin, ou ces pratiques ou ces postures ont eu égard à la pratique de la poésie, ont des rapports entre eux, mais bon, ça n'est pas extrêmement clair, extrêmement facile de discerner comment sont les choses. Alors, l'autre chose avec quoi je suis très d'accord, c'est que je crois, j'ai cru le comprendre dans ce que tu disais aussi, est-ce que je t'ai écouté vraiment sérieusement, je ne sais pas très bien. Je crois aussi qu'il n'existe pas de poésie absolument naïve, c'est pas possible ça. Je pense que toute poésie comporte sa théorie explicite ou implicite. Par exemple, chez Hugo, c'est évident qu'il y a une théorie de la poésie à la fois d'une certaine manière externe, mais pas tout à fait externe, ou périphérique, et celle de ces... De ses propos préfaciels, par exemple, pour l'ensemble de ses recueils lyriques, et puis qu'ensuite, la poésie lyrique de Hugo, elle est par définition théorique, réflexive, autoréflexive, autocritique, et que l'invention du lyrisme, c'est une interrogation sur la voix, sur les voix au pluriel, intérieures ou pas intérieures, sur... la notion de contemplation, sur la mission et l'utilité ou pas de la poésie, l'action de la poésie dans la société, dans le social, etc. Donc la poésie, le poème hugolien comporte constamment son propre commentaire et son propre discours fabricant de la théorie, enfin voilà. Donc voilà ce que je voulais au départ dire, une sorte de plutôt d'inquiétude un peu comme ça sur différents sujets, mais bon. Puis je voudrais dire une autre chose, mais je la dirai tout à l'heure peut-être.
Oui, deux choses. Hein. Je crois que on est vraiment d'accord sur les deux points essentiels que tu as soulignés, c'est-à-dire d'une part le théorique, ce n'est pas le philosophique, c'est-à-dire que le théorique, c'est un régime. Pardon, le philosophique, c'est un régime spécifique du théorique. Et ce à quoi on a assisté dans une tradition à très longue portée, en effet, hein, c'est une espèce d'assujettissement par la philosophie de certaines poétiques. Ça, c'est clair. Hein, c'est un philosophe américain qui parlait de l'assujettissement philosophique de l'art. Et on peut dire ça aussi de la poésie, avec évidemment des points de fixation dans certaines traditions. Hein, on peut penser à Hölderlin en Allemagne, à Leopardi en Italie, évidemment à Mallarmé en France, hein, c'est-à-dire une espèce de dialogue hein, parfois tendu entre certains poéticiens et certains théoriciens philosophes de la poétique. Le deuxième point, je pense, très important, c'est difficile de décrire, je pense, ce que Jean-Marie approchait, hein, c'est-à-dire le régime théorique des pratiques poétiques. C'est très très difficile à décrire parce qu'il y a des poètes qui sont extraordinairement rétifs à expliciter certains choix, comme s'ils avaient peur de les éventer ou de même de les dénaturer ou de les faire tout simplement passer ailleurs que dans le déploiement propre de leurs poèmes. Il y a des poètes qui, au contraire, aiment à afficher leur parti pris théorique ou sous forme de manifeste. Jean-Marie parlait de préface. Ça peut être aussi dans des entretiens. Par exemple, s'il y a un genre à part entière, hein, le genre entretien théorique où les poètes expliquent ça. Il y a des poètes, je pense à De Guy, qui dit souvent que la poétique, c'est l'attente du poème. Hein, c'est le lieu où le théorique et le poétique se relaient. Et je pense qu'en effet, ce qui serait bien, hein, c'est que vous sortiez de cette conversation convaincu que le rapport entre poésie et théorique, le poétique et le théorique, hein, nécessite autant d'attention descriptive, hein, de gestes herméneutiques précis, que l'attention au poème lui-même. Hein, c'est-à-dire que c'est une question à chaque fois recommencée. Hein, et puis, alors après, il y a aussi un élément, et je m'arrête là-dessus, hein, qui est, on pourrait dire, je pense, les concepts empruntés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de théories poétiques hein, qui empruntent des concepts. Alors là, évidemment, à la philosophie, c'est un lieu commun, mais aussi, par exemple, hein, à la science. Hein, je pense à Zanzotto, par exemple, c'est quelqu'un qui emprunte beaucoup de concepts à la science pour décrire ce qu'il fait dans sa poétique. Hein. Ça peut être à l'histoire, ça peut être... Donc il y a plusieurs régimes du théorique pour chaque poème, et il y a plusieurs régimes d'emprunt à des théories extérieures à la poétique propre hein, pour décrire ce que font les poètes.
Ce qui vous caractérise, Jean-Marie, Anne Parian et Martin, c'est que vous êtes poète, vous écrivez. À la différence de Bénédicte qui est universitaire et qui commente. Est-ce que le discours tenu par Jean-Marie et Martin, là je m'adresse à toutes les deux, est un discours qui est possiblement tenu parce qu'ils sont à la fois poètes et en situation de réflexion, ou est-ce que vous-même, Bénédicte, par exemple, avez le même type d'analyse sans être engagé par le poème de la même façon. Je ne parle pas d'intensité, je ne parle pas d'hiérarchie, hein, je parle simplement de position par rapport à la question du poème.
Merci Yves pour cette précision. Effectivement, par rapport aux trois autres interlocuteurs, j'ai une position à part. C'est que personnellement, je ne suis pas dans la pratique poétique. Je n'ai donc pas une œuvre en construction et éventuellement une position de poétique à défendre. Et par rapport à ce que Martin et Jean-Marie disent tous les deux, je souscris absolument en regard extérieur au fait que la poésie est d'abord n'existe pas au singulier et qu'en fait je dirais peut-être que tout le problème de la réception que connaît actuellement ce qu'on appelle improprement un genre, qui correspond plutôt à une modalité d'écriture qui est au-delà des genres littéraires, le problème commence par là, sur la manière dont on considère la modalité poétique, eh bien, vient de ce qu'on est encore dans une conception, je dirais, œnologique du poétique. La poésie, ça soupçonne qu'il y a une essence de la poésie et une seule. Et à partir du moment où on pose le débat en ces termes, et c'est un petit peu la remarque critique que je ferai par rapport au titre de cette table ronde, on s'interdit de prendre acte d'une mutation épistémologique fondamentale qui a eu lieu, je dirais, qui a commencé avec Kant à la fin du XVIIIe siècle, qui s'est aggravée au XXe siècle et qui se poursuit au XXIe, c'est l'entrée, je dirais, dans la relativité généralisée. Où être persuadé qu'il y a une définition et une seule d'une pratique ne correspond plus au ressenti des sujets qui lisent ces textes, où il n'y a plus une vérité mais des hypothèses qui font sens, qui rendent compte d'une pratique, où il n'y a pas la poésie mais des pratiques poétiques, des poétiques. Et à partir de là, quelle serait la fonction de la théorie ? Même chose. Le reproche que je fais sur la manière de poser le problème en restant dans une vision unitaire renvoie aussi à la théorie. Il y a des théorisations possibles du poétique. Les deux sont liés, c'est-à-dire là où je souscris tout à fait aussi à ces deux idées d'un point de vue de pure lectrice, c'est qu'il semble que les écrivains dont l'œuvre mérite d'être lus, qui font progresser, je dirais, notre réflexion, notre rapport à la langue, sont semble-t-il, des œuvres qui toutes se relisent, comme le disaient Jean-Marie et Martin, se relisent théoriquement, à un moment ou à un autre, plus ou moins consciemment, se commentent pour clarifier leur dynamique d'écriture. Donc, c'est un lieu commun. Le théorique et le poétique semblent indissociables, en tout cas celles qui font avancer quelque chose sur la réflexion de la langue. En revanche, ce qui se passe, c'est que tant qu'on n'est pas sorti de cette vision unitaire, eh bien, à ce moment-là, et c'est là qu'il me semble qu'est le divorce avec le public. C'est-à-dire que là, j'ai entendu des auteurs, mais quand je considère, par exemple, mes étudiants, qui seraient les premières cibles de ces textes-là, quelles peuvent être leurs réactions par rapport à la diversité des pratiques contemporaines ? C'est que nulle part dans leur formation, tant au lycée, au collège, même à l'université, on ne les éduque à cette relativité épistémologique. Nulle part dans les livres, on ne propose en réalité, je dirais, un faisceau de définitions variées et différentielles des pratiques poétiques. Et donc, quand ils se trouvent face à des publications, par exemple, puisque Anne publie chez POL, POL qui publie des textes labellisée poétique, mais qui correspondent absolument pas à ce que le système universitaire et scolaire a l'habitude de faire étudier comme poésie. Ils sont perdus. Et à ce moment-là, c'est la réaction de rejet. C'est la réaction de rejet parce qu'il n'y a pas eu une modalité théorique elle-même relativiste qui permette d'intégrer en amont, très jeune, qu'il existe des définitions d'une pratique poétique, qu'on ne hiérarchise pas telle pratique par rapport à telle autre, et qu'à ce moment-là, le but, dans notre but de lecture et de commentateur, est un but de description de la diversité pour essayer que cette diversité soit comprise et acceptée dans son altérité. Et là, de mon seul point de vue de commentatrice, je dirais qu'il y a un énorme problème sur l'engagement théorique des formations scolaires et universitaires, et un énorme problème sur la pédagogie à adopter pour faire lire, dans leur altérité, dans leur difficulté, ces écritures. Et pour montrer, voilà, donc il n'y a pas la poésie et le théorique, mais des poésies, ou des pratiques poétiques, et des théories sur ces pratiques différentielles. Voilà, c'est ce que je voudrais dire.
Alors là, je vais me faire un peu l'avocat de la doxa, enfin du discours habituel, qui pense à l'inverse, que c'est peut-être par un excès de théorie, avec plein de guillemets, que le goût de la lecture et du poème s'est perdu. Donc, quand vous parlez de théorie, que faut-il entendre ? Commentaire, pédagogie, art d'introduire des lecteurs au poème, ou quelque chose d'autre qui serait, comme le soulignait Martin, indétricotable, indéfectible du texte lui-même. Comment aller chercher cette dimension qui appartient au texte et qui relèverait d'une connaissance au sens le plus large, le plus ouvert, d'une théorie du poétique.
Je vais pas parler. Je sais pas. J'aurais peut-être dû laisser Jean-Marie. Il serait sans doute plus clair que ce que je vais l'être. La question, c'est là ce que j'entends. Enfin, c'est pas d'une théorie du poétique. Enfin, pas pour moi. Moi, je suis pas théoricienne, donc je vais y aller un peu à la massue. Il y a une phrase qui a été reprise plusieurs fois, c'est « la poésie n'existe pas ». Ce que je trouve, Jean-Marie a dit, du coup on ne peut pas en faire la théorie. Moi je trouve que c'est justement celle-là qui n'existe pas, dont on peut faire la théorie, enfin dont il est intéressant d'aller chercher, d'aller l'extraire pour qu'elle existe justement. Et que c'est au moment où c'est cette extraction qui a vocation à faire théorie. Et juste pour dire que ce qui m'intéresse moi, c'est ce que l'acte poétique est susceptible de créer comme théorie, mais et si possible inédite, plus que tourner en rond sur. Enfin, c'est autre chose que de savoir. Et c'est ce que disait Martin, c'est-à-dire qu'à chaque création de ce type, sans forme préalable, sans formalisme, mais dans la forme comme possible. Aurait à être lu par chaque lecteur comme produisant sa propre théorie. La lecture de chacune de ces œuvres, et plus elles sont justement, comme relevait Martin, le problème c'est que dans les contemporaines, il y a une difficulté du lecteur à appréhender par des théories comme lecteur, c'est-à-dire comme celui qui va construire la théorie de ce qu'il lit. Et chaque production est l'occasion, et cette occasion-là. Or, l'école, elle donne la pensée théorique du poème, elle pré-poétise, quoi. Donc là, on vit dans un monde pré-poétisé. Voilà. Et l'idée, c'est de poétiser le monde. Si j'ai dit que j'étais pas théoricienne.
Oui, non, je voulais juste avoir une petite réaction historiciste à ce que tu disais. C'est-à-dire qu'il me semble, étant donné mon grand âge, que j'ai vécu dans les années 60-70 et encore 70-80, une période que j'appellerais une période d'exaltation théorique, d'exaltation, d'enthousiasme épistémologique, etc. Et on peut dire qu'à cette époque-là, il n'y avait pas forcément un marché de la poésie, mais il y avait un marché des poétiques. Les poétiques, elles étaient nombreuses, elles s'affirmaient, les théories de la poésie étaient nombreuses et s'affirmaient, je veux dire, aussi bien du côté de Change et de Roubaud que de Méchoni, que de Julia Kristeva, Révolution du langage poétique, etc. Donc il y avait une offre, en quelque sorte, de théories sur la poésie énorme. Et de surcroît, évidemment, qui créait un champ polémique. Hein. La querelle battait son plein, là, pour utiliser un mot qu'aime bien Michel. La querelle avec un Q majuscule. Il me semble qu'on est passé aujourd'hui à une époque, disons, relativement plus atone de ce point de vue-là. Hein. Alors, il y a même des gens qui, entre-temps, nous ont expliqué que le théoricisme de la période antérieure avait en quelque sorte entravé et paralysé la création elle-même. C'est-à-dire, c'est un peu ce que tu disais, c'est-à-dire on lisait moins de poèmes et on lisait la théorie du poème, d'une certaine manière. On consommait du théorique, en quelque sorte, principalement. Et cette surconsommation du théorique pouvait entraîner, d'une certaine manière, une inhibition à l'écriture de poésie proprement dite. Voilà. Alors aujourd'hui, on serait dans une période. J'ai reçu il y a quelques jours un ouvrage publié précisément aux éditions Questions théoriques, là, qui porte bien leur nom. Et c'est un livre qui s'intitule Explore. Et son sous-titre, c'est Investigation littéraire. Et c'est un livre qui part, alors j'ai pas encore eu le temps de le lire, mais qui part d'une description du temps que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, qui serait caractérisée, selon l'auteur, par des conduites théoriques qu'il dit relativement atones. Et il parle justement de quelque chose comme d'une panne de la libido théorique aujourd'hui. Alors, bon, c'est marrant comme formule, mais je la trouve assez juste. Et il fait la liste d'un certain nombre de symptômes régressifs, retour à l'histoire littéraire la plus old style, and so on. Voilà. Donc, je voulais simplement dire qu'on était un peu passé d'une période à une autre, et effectivement, aujourd'hui, les pratiques poétiques extrêmement différentes et divergentes coexistent, et sont un peu regardées comme toutes plus ou moins d'ailleurs équivalentes, etc. C'est-à-dire il n'y a plus cette espèce de combat ou de voilà. Parce que, ouais, je voulais juste dire ça de plus.
Juste compléter, parce que je suis la génération qui suit, que personnellement ces théories, elles sont plutôt elles m'ont été plutôt stimulantes que inhibantes. Ça a permis d'aller chercher encore plus loin dans la phrase et les textes.
Ce que tu semblerais dire, c'est que comment le postmodernisme, terme très cher aux Américains, nuit en fait à la vitalité du débat théorique. J'en suis pas sûre. C'est vrai qu'il y a eu une réaction peut-être anti-théoriciste par l'hyper-théoricisation des années 70. Ça, c'est très clair. D'un point de vue de lecteur et de commentateur, au contraire, le besoin de théorisation, donc pour reprendre votre suggestion, Yves, théorie, ça veut dire presque au sens grec du terme aussi un défilé. Faire la théorie de la poésie, théorène, c'était voir défiler les différents membres d'un cortège. La poésie, les poésies doivent être théoriques, en ce sens où elles doivent faire défiler la variété des pratiques qui leur coexistent de manière contemporaine, c'est ce que je disais précédemment, mais aussi la variété des pratiques qui les construisent et qui constituent la bibliothèque à partir de laquelle les créateurs, et ça, bon, j'en ai trois autour de moi qui sauront mieux répondre que moi, à partir desquels leur texte se construit, dont ils se nourrissent, et qui crée un réseau de dialogue intertextuel, hypertextuel. Voilà. Donc la théorie comme mise en évidence des diversités, à la fois contemporaines et aussi en amont. Théorique comme conceptualisation, oui, évidemment, parce que quand on a affaire à une diversité, surtout quand elle est notre contemporain et qu'on n'a aucun recul de lecture, eh bien, il faut essayer de se frayer un chemin dans cette diversité. Essayer d'établir des comparaisons, des points communs pour se repérer. Et alors, peut-être que je vais faire bondir mes voisins, mais pour nous, lecteurs, il faut essayer de caractériser, de nommer cette nouveauté. Alors, avec toute l'humilité de lecteur qu'on peut avoir, où forcément on va fausser, on va rédire, on va simplifier momentanément la complexité d'une pratique poétique. Mais quand on est les premiers, ou parmi les premiers, à essayer de faire connaître un contemporain, il faut bien se lancer à un moment ou à un autre. Et il faut bien proposer un chemin de lecture avec toutes ses imperfections. Donc oui, il faut de la conceptualisation, au risque d'une abstraction qui sera ensuite nuancée par d'autres lectures, par des collègues lecteurs, par les poètes eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle, pour ma propre part, je trouve intéressante cette voie de l'entretien que j'expérimente maintenant depuis 6 ans avec différents poètes contemporains, donc avec Michel Deguy ici présent, voilà, Christian Prigent, Raymond Federman, Michel Butor, enfin voilà. Pourquoi je trouve cette voie intéressante? Parce que elle permet l'aller-retour entre ces propositions de premier chemin de sens face à une œuvre qui nous déborde de tous les côtés par la rénovation des pratiques de langue qu'elle propose et le retour de celui d'où elle jaillit et qui peut éventuellement non pas rédimer de façon auctoriale et autoritaire selon un auteur que Barthes, Foucault ont essayé d'arraisonner un petit peu, mais selon quand même une certaine vérité d'écriture. Il y a quand même un geste de jaillissement du texte qui a une vérité sur laquelle le lecteur ne peut pas tout dire. Et dans l'aller et retour, le dialogue serré, rigoureux, qu'on peut avoir avec les auteurs, eh bien, il me semble qu'on peut établir à ce moment-là une proposition pour faire sens dans une œuvre, sans s'égarer parfois dans des hypothèses qui visiblement sont hors sujet ou anachroniques, et qui, dans ces cas-là, peuvent aider à bâtir des premières approches conceptuelle de pratiques qui, dans l'instant présent, débordent absolument tous les attendus de lisibilité, qui les rendent lisibles au public. Donc pour moi, la théorie, elle semble absolument incontournable pour faire connaître la diversité des pratiques contemporaines.
Je pense là à une réflexion de Peter Hanke dans une série d'aphorismes où il dit, plutôt que théorie, discours d'escorte. Est-ce que vous seriez d'accord pour adopter cette formulation? Discours d'escorte. Et j'entends dans les propos de Bénédicte quelque chose de cet ordre-là.
Oui, je crois qu'il faut clarifier un point ici. Ce que Jean-Marie et Anne évoquaient et ce que Bénédicte évoque maintenant, ce sont deux régimes bien distincts. Il y a un régime où, l'impact que les phrases ont sur les sujets, et qui est quand même la raison pour laquelle on écrit et on lit, cette puissance-là, à un moment qu'on peut dater, qu'on peut appeler, des pratiques poétiques. Ces pratiques poétiques ont engendré dans la théorie des années 60-70 un certain nombre d'effets. On ne va pas rentrer ici dans des points d'histoire, mais par exemple, on sait bien que les théories les plus formidables, fracassantes et stupéfiantes de Lacan sur ce qu'est la subjectivation doivent beaucoup à Mallarmé, par exemple. Donc il y a un rapport très puissant qui passe de ce qu'on peut tirer théoriquement du poème à ce qu'est la théorie. Et la théorie, il ne faut pas se cacher ce qu'a été la théorie dans les années 60-70, la théorie dit quelque chose du présent, dit quelque chose de notre attachement au présent, dit quelque chose de notre arrachement aux divers présents que nous vivons. Et dans cette configuration-là, le poème a joué sa part. Il l'a joué, comme rappelait Jean-Marie, de manière différente, hein, c'est-à-dire il y avait des poétiques, il y avait des débats poétiques, mais il l'a joué aussi comme puissance de sollicitation chez des théoriciens qui, d'une certaine manière, avaient du mal avec le poème. Hein, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que Barthes se fichait complètement de la poésie contemporaine, que Foucault, à part René Char, lisait très peu de poésie, que Deleuze a écrit une fois une phrase malheureuse sur un poète qui est de dire que Gerachim Louka est la meilleure chose qui soit arrivée à la poésie française depuis... Donc, si vous voulez, c'est pas exactement pareil. Je pense qu'il y avait un impact de ce qu'était la pratique poétique sur la théorie, et il y avait une certaine ignorance des grandes théories des années 70 à l'égard du poème. Et puis, ce que dit Bénédicte, c'est un peu autre chose. Évidemment, ça se rencontre, hein, mais c'est un peu autre chose. Et qui est de dire que ce qui manque aujourd'hui dans la face, on va dire, culturelle, justement, tournée vers le public, vers les étudiants, etc., c'est l'élaboration de catégories théoriques qui permettent d'appréhender dans leur singularité chacune des pratiques poétiques, des poètes, par exemple, qui sont là, ou d'autres. Il me semble que notre époque, et ça complète à mon avis parfaitement ce que vous avez dit tous les deux, notre époque, elle est extraordinairement atone du point de vue théorique, elle l'est de manière catastrophique du point de vue politique. La théorie politique d'aujourd'hui est une théorie complètement rabée, et pour des raisons qui tiennent pas seulement à la politique, mais qui tiennent au régime théorique. Et les difficultés que le public a à l'égard de cette pratique théorique spécifique qu'est le poème n'est, à mon avis, pas complètement étrangère à cette atonie de la théorie. Ce sont des états du présent qui sont très très difficiles à tenir ensemble, mais c'est ça qu'on essaie de faire ici. C'est-à-dire, d'une certaine manière, parce que ce qu'on aimait dans la théorie des années 60-70, c'était quoi? C'était à la fois des montées en généralité, des constructions conceptuelles extrêmement raffinées, mais aussi la conviction que plus on allait loin dans ce raffinement, dans ces élaborations, dans ces travaux d'analyse, de distinction, de diérèse, de synérèse théorique, etc., plus on allait proche du présent politique, éthique, économique. Or maintenant, on ne cesse de nous expliquer que c'est exactement le contraire. C'est-à-dire, on ne cesse de nous dire, hein, la théorie, c'était l'abstrait. Mais c'est le contraire de la théorie qui est l'abstrait. Hein, c'est un des premiers textes de Hegel, pour citer un poète contemporain, un des premiers textes de Hegel, c'est « Qui pense abstrait ?» Eh bien, ce n'est pas du tout les théoriciens qui pensent abstrait. Ce n'est pas du tout les poètes. On n'est pas du tout dans l'abstraction, si abstraction, ça veut dire haine du présent concret, des processus de subjectivation, des douleurs concrètes, etc. Non, non, c'est le contraire. Le théorique, c'est la construction d'instruments de saisie de ce présent-là. Le poème, c'est une construction de saisie de ce présent-là par des moyens qui sont différents, mais comme disait... j'étais très touché parce que disait, c'est des relances aussi, le théorique du poème. Évidemment, c'est des relances. C'est-à-dire que le poème, il se nourrit de photos, d'état du monde, mais aussi de théorie, bien sûr. Bien sûr. Pardon, je me suis un peu emballé.
Pas du tout. Je trouve c'est tout à fait intéressant d'avoir rétabli cette ligne de lecture. Hein. Mais vous ne m'avez pas répondu sur cette notion de discours d'escorte qui me touche beaucoup.
C'est quoi le discours d'escorte? C'est le discours à côté du texte? C'est le discours du professeur de littérature ou du critique ou du lecteur. C'était ça le discours d'escorte, enfin autrefois, d'après ce que j'avais cru comprendre que ça signifiait. Mais le discours d'escorte, ça peut être le discours aussi de l'auteur sur son propre texte, sur son travail, tel que, par exemple, la Socratique Bénédicte, l'extrait dans ses entretiens, etc. Moi, je dirais simplement, mais alors c'est un pas de côté, enfin, par rapport à ce qui vient d'être dit, que le plaisir théorique que j'éprouve aujourd'hui, c'est en lisant les poètes, c'est-à-dire c'est en lisant la façon dont les poètes me proposent un certain nombre de concepts que je ne comprends pas forcément dès le départ comme des concepts, mais qui en sont peut-être, hein. Par exemple, comme la notion de table chez Francis Ponge ou chez Emmanuel Occart. Emmanuel Occart qui a écrit, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, je n'ai pas dit d'emblée, mais j'aurais aimé dire tout de suite. Là, nous sortons un certain nombre de personnes qui sont ici d'un colloque qui a eu lieu il y a quelques jours sur l'œuvre d'Emmanuel Occart, à l'intérieur de laquelle nous avons plongé pendant 2 jours et demi. Et Emmanuel Occart est quelqu'un qui a écrit un livre qui s'intitule « Théorie des tables ». Théorie des tables. Et alors, tout à l'heure, Bénédicte rappelait que théorie, ça pouvait être le défilé, mais théorie, c'est également la contemplation. Hein ? Dans la postface de Théorie des tables, Emmanuel Occart explique que... À un certain moment de sa vie, à la fin des années 80, je crois, il a ramassé un certain nombre de cailloux ou de bouts de verre sur la plage, il les a mis dans des enveloppes, une fois rentré chez lui, il les a posés sur la table. Les ayant posés sur la table, il les a contemplés, et là il met théorein, théorie, voilà le sens qu'il donne à ce mot, et les ayant contemplés et considérés, il a... noté, pris acte par écrit de son observation, voilà, qu'il a transcrite en quelque sorte ensuite. Donc là, il y a la description là, de tout un processus où finalement la table devient une sorte de quasi-concept, si vous voulez. Voilà, voilà. De la même façon que pour moi, progressivement, travaillant sur un certain, sur une certaine matière, j'ai conçu que la notion de cabane pouvait être un quasi-concept également, avec d'applications multiples possibles. Donc voilà, c'est la traque de ces notions-là. Bon, je disais des conceptacles, pour ne pas dire des concepts, hein, pour leur donner une dimension un peu plus concrète sans doute. Voilà, c'est ça c'est ce à quoi j'ai aujourd'hui plaisir... dans le théorique, enfin pour voilà ce que j'appelle le théorique, le théorique parallèle en quelque sorte.
Personnellement, discours d'escorte, ça me gêne un peu parce que escorte, bon, ça fait escort girl, enfin ça fait un peu manque d'autonomie. Non mais je travaille l'imaginaire du mot. Mais ça manque d'autonomie. Or, l'intérêt du travail théorique, c'est au contraire que l'initiative est des deux côtés. Donc, je préférais dialogue, parce que tout le monde avance en même temps et se retrouve là où il ne pensait pas être. Et moi aussi, j'ai beaucoup aimé votre idée que c'est... On ne sait pas ce qu'est le poème. En fait, on va vers... une théorie qui s'ignore dans la pratique de l'écriture. Et là aussi, le théorique, c'est pas quelque chose qui délivre une vérité et une seule, mais aussi c'est quelque chose qui invente ce vers quoi il tend. Et dans cette notion de discours, de dialogue, il y a l'idée de cette invention perpétuelle. Et ce n'est qu'a posteriori qu'on découvre que oui, on a pu produire. Alors on pourrait, a posteriori, Jean-Marie, avec son écriture poétique, est en train d'élaborer ce concept de cabane comme un concept éventuellement clé de son écriture. Mais c'est un a posteriori, vous voyez. Donc c'est ce qui me gêne dans votre escorte.
Juste entre Bénédicte et Jean-Marie, il me semble... Que, enfin, il me semble, je suis sûre, qu'en écrivant, on dialogue, alors effectivement, on dialogue plus qu'on discours avec les théories produites par les textes qui nous ont précédés, les textes de nos contemporains. Enfin, on n'écrit pas sans tout ce que la poésie a déjà théorisé. Voilà, c'est effectivement un dialogue. On écrit avec les anciens et avec les futurs.
Dans le concept d'escorte, ce qui me semblait intéressant, c'était d'attirer votre attention sur une question, je dirais, topique, qui est le lieu où se fait la théorie par rapport au poétique. La théorie, elle peut être à l'extérieur du poème, comme explicitation, donc là, en effet, elle est ou avant ou après, ça, hein. Mais elle peut se faire aussi tout contre le poème. Jean-Marie évoquait les discours de préface. On sait aussi qu'il y a des discours théoriques des poètes sur leurs poèmes qui deviennent le texte poétique lui-même. Je pense à La Fabrique du Pré, par exemple, où en fait c'est le régime d'élaboration du poème et les théorisations qu'il implique qui devient le poème lui-même. Et puis, il y a dans la tradition française, et il ne faut pas oublier que c'est aussi une marque de fabrique de la poésie française du XXe siècle, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, c'est une dimension que des poétiques, par exemple, je pense à la poésie italienne, ont eu tendance à reprocher à la poésie française. C'est ce qu'on pourrait appeler la poésie critique dans le poème, dont, disons, le sigle pour le XXe siècle, et peut-être pour encore plusieurs décennies, est Mallarmé. C'est-à-dire que le poème se fait le porteur à l'intérieur du vers, par exemple, quand c'est le vers ou du vers libre, des opérations théoriques qui l'ont précédé et qui le produit. Donc moi, escorte, c'est le cas de Michel, par exemple, Michel Deguy, oui. Moi, ce qui me gêne, je comprends très bien ta réticence sur escorte, mais je trouve que comme indice d'une question importante qui est où est-ce que vous mettez la théorie, d'accord, avant, à côté, dedans, je pense que c'est un bon lieu. C'est une bonne manière de dire.
Alors, on va prendre le risque d'accueillir éventuellement une ou deux questions. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que quelqu'un parmi vous a envie de s'adresser à l'un ou l'autre de nos invités?
Oui.
Madeleine ?
Le premier, c'est que le prix Nobel de la littérature a été attribué à Bob Dylan. Donc, le champ poétique est traversé d'autres choses que de langage au sens strict du terme. D'autre part, ce que je voudrais dire aussi, c'est que à l'étranger, présenter la poésie française contemporaine, c'est une épreuve quasiment impossible. Pourquoi ? Parce que la poésie française est ressentie comme étant focalisée exclusivement sur des problèmes d'ordre linguistique et que les avatars de cette pratique sont ressentis comme un défaut de la théorisation, la French theory, qui a donc en quelque sorte durci et rendu quasiment impénétrable la poésie française contemporaine. Le troisième point, et c'est le dernier, il me semble ne pas avoir entendu, mais j'ai dû m'écarter un petit peu du podium, il me semble ne pas avoir entendu que finalement le poète est en lutte ou en symbiose, en rapport en tout cas, avec le langage. Or, dans la pratique contemporaine, le langage des réseaux sociaux, le langage partagé, le langage planétaire met en jeu d'autres problèmes que ce que nous évoquions dans notre pratique théorique, à savoir des enjeux de vérité. Et peut-être que la question politique et la question théorique devrait aussi s'interroger sur ces questions-là. Merci. Je me permets.
Oui. On peut avoir une courte réponse, parce qu'on arrive au terme.
Je me permets juste de vous répondre sur votre deuxième point. La poésie française contemporaine peut parfaitement être entendue à l'étranger. Je reviens à l'instant d'Indonésie, où j'ai donné 9 conférences sur une présentation du panorama de la poésie française extrême contemporaine. Et à partir du moment où vous avez une pédagogie pour expliquer les présupposés des pratiques d'écriture, au contraire, l'intérêt est extrêmement vif. Voilà. Mais ça exige une pédagogie.
Voilà une chose réjouissante. Mais je vous remercie, puisqu'on est arrivé au terme de notre débat. Merci à tous les quatre. Merci à vous, public, d'avoir accueilli ces propos qui ne sont pas toujours les plus simples. Et bonne suite pour le marché. Les tables rondes vont continuer. C'était la première d'une série de 9 tables rondes. Je vous renvoie tout simplement à la lecture du programme du marché pour que vous guidiez un peu vos pas vers telle ou telle problématique. Merci encore et à très vite.